Je vous propose une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er. Et au verset 1er, c'est peut-être un petit peu long, mais ça permettra pour ceux qui ne connaissent pas précisément ce passage de situer un petit peu l'histoire. Il y avait un homme de Rama, Taïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsef, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Eli pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, et je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. L'état premier de cette femme qui s'appelle Anne peut illustrer d'une façon assez saisissante la situation de beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société. Et peut-être, eh bien, votre propre situation. Elle est, disons, dans les pleurs, elle est sans appétit, elle est déçue, et pour elle, les choses ne sont pas comme elle souhaiterait qu'elles soient. Par contre, nous notons dans ce même texte que Anne va faire une expérience très précise, très marquante, qui va totalement transformer sa vie, bouleverser sa vie et lui assurer un avenir totalement heureux. Je crois que l'expérience que cette femme a faite, c'est une expérience qui est à la portée de chacun d'entre nous. Et elle est d'autant plus accessible à chacun que depuis, Jésus est venu dans le monde. Et il est venu pour apporter aux uns et aux autres son aide, son secours, sa délivrance et donner un sens à notre existence. Il y a eu pour cette femme une parole de Dieu de la part du sacrificateur Élie. Et je veux croire que cet après-midi, il y a, d'une manière ou d'une autre, une parole de Dieu qui vous concerne et qui peut vous interpeller. Si nous devions demander le témoignage de plusieurs, certainement qu'on tomberait plus ou moins d'accord sur le fait qu'un jour, il y a une parole de Dieu qui a retenti. Un mot, une phrase, un comportement qui a bouleversé notre vie. En disant cela, je pense à un témoignage que j'ai entendu l'an dernier, au mois de mai, lors d'une conférence messianique à Pau. Il y avait là un Palestinien qui venait rendre son témoignage, ancien bras droit de Yasser Arafat, tireur d'élite du Fatah, qui a passé bien des années dans sa jeunesse à tuer des juifs, à être posté à divers endroits, et son job, c'était de tuer des juifs. Et un jour, cet homme s'est converti à Jésus-Christ. Et il rendait, là, au mois de mai, son témoignage à Pau. Et comment la chose s'est-elle produite ? Ben, d'une façon extrêmement banale. À un moment donné, sa vie est devenue une sorte d'enfer. Il ne supportait plus de passer ses journées à tuer. Alors il a quitté la Palestine et il est parti pour les États-Unis. Et là, c'était peut-être pas le meilleur endroit qu'il avait choisi, mais bon, il a pu être introduit aux États-Unis et il a trouvé un job. Il a trouvé pour faire la vaisselle dans un restaurant. Comme il faisait bien sa vaisselle, il est monté en grade et il s'est retrouvé comme serveur dans le restaurant. Et un jour, eh bien, il y a un couple qui est venu manger à ce restaurant. Et quand il a enlevé l'assiette, après que le couple ait mangé le plat, le monsieur lui a dit merci. Et cet homme a été interpellé. C'était un Français. Alors déjà, pour un Français, à l'étranger, c'est assez remarquable parce que les Français n'ont pas toujours une très bonne réputation à l'étranger. Il lui a dit merci. Et lui, Palestinien, disons, faire ce type de travail, c'est le travail d'un serviteur le plus bas tombé. Et quand on fait son job, eh bien, on ne reçoit pas de merci. Mais là, on a dit merci simplement parce qu'on lui a enlevé l'assiette et qu'on allait lui apporter, eh bien, le plat suivant. Et ça l'a interpellé. Et il s'est dit dans sa tête, si un jour je rencontre à nouveau cet homme dans le restaurant, eh bien, je m'occuperai plus précisément de lui. Il s'est avéré que cet homme est revenu avec sa femme plusieurs fois. Bon, pas tous les jours, mais régulièrement, dans les semaines et dans les mois qui ont suivi. Et mon Palestinien en question a fini par lui dire, « Monsieur, j'ai une question à vous poser. Vous êtes différent des autres. Il y a quelque chose chez vous qui est différent des autres. » Et cet homme lui a dit, « C'est possible. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. » Ah bon ? Et ça s'est arrêté là. Et le soir, dans la nuit, il a été travaillé. Il a dit, c'est vrai, il est différent, et il est différent parce qu'il est chrétien. Il est différent parce qu'il croit en Jésus-Christ. Moi, je suis musulman et je ne crois pas en Jésus-Christ. Et ça l'a tellement travaillé que dans cette nuit même, le Christ s'est révélé à son cœur. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Sa femme préparait le petit déjeuner. Il avait épousé une Américaine. Je passe les détails des épousailles. Et pendant qu'elle préparait son café, cet homme dit dans son témoignage, « J'ai regardé ma femme et je l'ai aimée. » Alors il s'est levé, il s'est approché d'elle et il lui a dit, « Chérie, viens dans mes bras. » Et la femme l'a regardé et lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Et il lui a expliqué ce qui s'était passé dans la nuit. L'histoire de ce client au restaurant qui un jour lui a dit merci, qu'il a jugé ne pas être comme les autres et qui a fini par lui dire qu'il était chrétien. Et cette femme a été interpellée. Il a dit, il faut que j'en parle à mon fils. Alors il a fait venir son fils à la maison et il lui a dit, mon fils, j'ai quelque chose à te dire. « C'est pas facile ce que je vais te dire, mais il faut quand même que je sois vrai. » Et il a fini par lui dire, « Eh bien, je suis devenu chrétien. » Et son fils est tombé en larmes et il lui a dit, « Papa, je ne savais pas comment te le dire, mais ça fait 3 mois que je suis devenu chrétien. » Je veux dire, c'est un témoignage extraordinaire. J'avais lu ce témoignage, mais là j'ai rencontré l'homme, j'ai mangé avec lui. J'ai posé un certain nombre de questions. Dire, c'est impressionnant. Un simple merci, une parole qui a complètement bouleversé sa vie. Et maintenant, cet homme parcourt un petit peu le monde. Alors, je lui ai demandé s'il était revenu en Palestine, en Israël. Et il m'a dit oui. Il a ouvert à Jéricho une maison pour enfants. Il me dit, les premières années, ça n'a pas été très simple parce que j'étais considéré comme un traître. On a voulu porter atteinte à ma vie. Maintenant, les choses se sont plus ou moins calmées. Mais il a un témoignage assez remarquable. Il y a eu un jour un comportement, une révélation de Dieu, une parole de Dieu. Et je veux croire que cet après-midi, simplement dans ce lieu, il peut y avoir pour vous un comportement, une révélation, une parole qui est une parole de Dieu qui peut changer, bouleverser, transformer à toujours votre existence. Je crois qu'il faut que nous puissions faire confiance à Dieu, faire confiance à Jésus-Christ, ne pas jouer au chat et à la souris. Il y a des gens qui voudraient découvrir la vérité, connaître la vérité, mais au fond d'eux-mêmes, la vérité ne les intéresse pas. Un jour, j'ai reçu quelqu'un à la maison. Cet homme était venu avec un ami qui, lui, était chrétien. Et il souhaitait, eh bien, s'entretenir de l'évangile de Dieu. Et on a mangé ensemble, on a parlé. Et il posait des questions, il posait des questions. 3 heures du matin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors j'ai fini par lui dire, écoutez, monsieur, vous voulez connaître la vérité ?
Oui.
Ben, je lui ai dit, écoutez, on arrête tout de suite là et on va prier ensemble et on va demander à Dieu de se révéler. Oh, il me dit, il est 3 heures, il faut que je rentre chez moi. Il aurait été capable de discuter jusqu'à je ne sais quelle heure. Mais placé devant le fait que peut-être là, Dieu allait se révéler à lui, non. Alors il y en a qui ont l'amour de la vérité, mais à condition que cette vérité ne les rencontre jamais. Mais si j'aime vraiment la vérité au fond de moi-même, le jour où elle passe à côté de moi, ça fait comme la pointe avec l'aimant. Paf, ça colle. Ça marche. Je ne l'ai peut-être pas connue jusque-là, mais si je l'aime au fond de moi-même, à partir du moment où je suis en contact avec la vérité, alors ça va faire tilt, ça va coller. Et je crois qu'il peut y avoir une parole de Dieu pour vous. Anne nous est décrite comme étant une femme en pleurs. Une femme sans appétit, une femme attristée, une femme impuissante à transformer les circonstances. Et si on prend un mot d'aujourd'hui, on dirait que cette femme est en dépression. Elle est dans une dépression totale. Et cet état, eh bien, c'est, disons, le lot de beaucoup. Et pour ce faire, il n'y a pas d'âge. Nous découvrons des jeunes, des moins jeunes, qui sont comme dans une situation de découragement, qui n'ont envie de rien, qui n'arrivent pas à s'endormir, qui n'arrivent pas à se réveiller, qui n'ont pas envie de faire ceci, qui n'ont pas envie de faire cela, qui n'ont pas envie de manger, qui sont toujours somnolents, enfin, qui sont complètement, disons, désorientés, qui sont mal, eh bien, dans leur peau. Alors à cela, il y a mille et une raisons. Pour certains, c'est peut-être le constat d'une vie de désordre et d'une vie de péché. Pour d'autres, c'est le constat de la faiblesse, de la stérilité de sa vie. Il y a bien des raisons. Et ça conduit à un caractère exécrable, insaisissable. Il y a des gens, on ne sait pas par quel bout les prendre. Ils sont de bonne humeur, ils sont de mauvaise humeur, ils rient, ils crient. On ne sait plus trop comment, eh bien, il faut se comporter. Et ce comportement, eh bien, peut conduire peut-être même au suicide. Ou même des couples, eh bien, finissent par voler en éclats. Le mari ne supporte plus sa femme ne supporte plus son mari. On ne supporte plus les enfants. Enfin, ça crée toutes sortes de désordres. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Quelle est ta disposition de cœur? Sous quelle forme se révèle ton véritable caractère? Pas simplement en public, mais aussi en privé. Assurément, Dieu a aidé cette femme. Dieu a secouru cette femme. Et Dieu seul est capable de t'aider. Et Dieu seul est capable de te secourir. Dans l'histoire, nous notons que le mari de Anne avait une seconde épouse. Alors, on ne va pas discuter ce sujet. À l'époque, c'était possible. Et cette deuxième s'appelle Pénina, et c'était une rivale. Une rivale parce que c'était la deuxième épouse, une rivale parce qu'elle avait des enfants, et que l'autre n'en avait pas. La première se sentait frustrée de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle en voulait, et l'autre se sentait, disons, très forte parce qu'elle avait des enfants, elle était une vraie femme, et elle pouvait, eh bien, mortifier, se moquer de l'autre, avec, comme nous l'avons lu, un seul objectif, la porter à s'irriter contre Dieu, à rendre Dieu responsable de sa stérilité, à s'en prendre au Créateur. Et elle utilisait tous les mots qui lui venaient en tête pour qu'il en soit ainsi. Alors c'est vrai que notre monde, notre société, n'est pas fait que de concurrence loyale. Et nous constatons que dans notre monde, il y a beaucoup d'injustices, de rivalités qui sont cruelles. Le faible est malmené. Le faible est opprimé. Et ça commence très tôt. Ça commence à l'école. Moi, j'ai adopté deux enfants. Ils avaient 2 ans et demi. Ces 2 enfants d'origine coréenne, un garçon et une fille. Bon, ma fille, elle était assez rapidement débrouillarde. Le garçon, un petit peu comme la plupart des garçons, il était un petit peu pâteau étant enfant. Et quand à l'école, on se moquait de lui, tout petit, il rentrait et disait à sa mère, « Maman, je ne comprends pas, il y a un Chintok à l'école, je ne sais pas qui c'est. » Eh oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et il a fallu qu'on lui explique gentiment que le « je ne sais pas qui c'est », c'était lui. Mais qu'il ne fallait pas non plus qu'il le prenne trop mal, etc. Ben oui, il était différent. À l'école, à l'armée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne font plus le service militaire, c'est dommage. Il y en a qui apprendraient à faire leur lit, mais bon. À l'armée, eh oui. Pour les hommes qui ont fait l'armée, peut-être vous vous souvenez de certaines scènes où on se moque de celui qui est un peu différent, de celui qui est un petit peu pâteau, de celui qui est un peu faible, de celui qui n'arrive pas. Après, c'est, disons, à l'usine, au bureau, tellement facile de se moquer. Et quelquefois avec des paroles assez dures, assez cruelles. Le malade est bousculé. Celui qui ne semble pas être comme tout le monde devient l'objet de railleries, de jeux cruels. Si la personne est enveloppée, eh bien on va se moquer de son allure. On vient de faire une loi pour ceux qui sont trop maigres. Je ne sais pas si elle sera appliquée. C'est vrai que c'est dommage d'entretenir des gens dans l'anorexie, mais peut-être que demain on en fera pour ceux qui sont trop lourds. On est dans un monde de discrimination. Et il y a toujours, eh bien, des paroles qui sont, disons, blessantes. Et ceci est orchestré par un adversaire qui est subtil, et qui, dans le fond, veut nous amener à nous révolter contre le Créateur. Parce que si je suis mince ou un peu enveloppé, c'est la faute à qui? Alors peut-être qu'il y en a qui mangent un peu trop de chocolat, un peu trop de bonbons, c'est possible. Hein? Mais c'est tellement facile de dire, oui, mais alors attendez, c'est celui qui m'a fait. C'est celui qui m'a créé. Et il y a cette réaction de s'en prendre, eh bien, au Créateur. Et Pénina, elle se moquait, elle l'a mortifié, elle l'a traité de tous les noms pour qu'elle s'en prenne, eh bien, au Créateur. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans votre situation, Pénina ne vous aidera jamais. Pénina ne venait pas consoler Anne. Elle ne venait pas sortir le mouchoir pour lui dire, « Anne, je t'en prie, essuie tes larmes, je suis là. » Non, 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 non. Elle en rajoutait un petit peu. Plus elle était mal, plus elle était contente. Le monde ne viendra jamais vous consoler. Le monde ne viendra jamais vous tendre la main. Mais il en est qui se réjouiront pour tenter de maintenir votre tête sous l'eau. Par contre, il y avait le mari, Elkana. Et Elkana, c'était un bon mari. Ça existe, hein? Un bon mari. Il aimait Anne de tout son cœur, de toutes ses forces. Il est dit qu'il avait des attentions pour elle. Et quand il distribuait les offrandes, eh bien, il lui donnait une double part. Il lui manifestait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de gentillesse. Il était à ses petits soins. Il essayait de combler le vide, de pallier, eh bien, aux failles qui étaient là, en l'entourant du mieux qu'il le pouvait. Au bout du compte, c'était néanmoins insuffisant. Alors, ce que nous pouvons dire quand même, c'est que le monde n'est pas fait que de mauvais citoyens. Il y a des gens qui sont gentils. Il y a des hommes et des femmes qui sont aimables, qui sont pleins de bonne volonté, qui sont serviables, qui sont capables de se sacrifier pour d'autres. Il y a des institutions qui existent et qui sont là pour, eh bien, tendre la main aux uns et aux autres. Heureusement qu'il y a cela, mais ce secours, ce soulagement qui est apporté, qui n'est pas négligeable, demeure néanmoins largement insuffisant. Et malgré l'amour que lui portait son mari, eh bien Anne était prostrée. Anne n'était pas satisfaite. Son problème, eh bien, n'était pas résolu. Et au bout du compte, qui peut guérir un cœur brisé? Qui peut rétablir le malade? Qui peut apaiser le révolté? Il y a des slogans, il y a des boutades, mais les slogans n'ont jamais été une solution, n'ont jamais été un remède. Les boutades ou les pirouettes, comme nous disions ce matin, ça n'a jamais apporté de solution, eh bien, durable. Et nous remarquons que on peut distribuer des tracts, on peut mettre des affiches, on peut mettre des formules sur les murs de nos villes. Eh bien, ce n'est pas pour autant que notre société va évoluer dans la bonne direction. Malgré tout ce que Elkanah faisait, eh bien, Anne restait dans son problème. Ensuite, il y a la religion. Elle montait à Silo avec son mari, avec sa rivale. C'était la fête, c'était le pèlerinage, c'était la tradition, les choses se faisaient ainsi. Il y avait les services religieux, il y avait les hommes religieux qui étaient là. Mais la religion, en fin de compte, ne l'a pas aidée. Même le responsable religieux l'a méprisée. Il s'est trompé sur elle. Il l'a vue prostrée, avec ses lèvres qui bougeaient, et il a cru qu'elle avait bu, qu'elle était ivre. Et il a eu une parole déplacée, désobligeante à son encontre. Et cette femme n'a pas réagi violemment, elle a dit non. Non, c'est ma souffrance, c'est ma douleur, c'est ma peine qui me conduisent à être, eh bien, dans cet état. Et je crois que la religion, vous avez la religion, comment on va dire, rétro, vous avez la religion moderne, vous avez la religion d'avant-garde, vous avez la religion bruyante, vous avez la religion silencieuse, vous avez la liturgie, vous avez ce qui est, disons, ouvert à tout, vous avez ce qui est rigide, enfin, vous avez tout un éventail, hein. Il y a même une, comment on appelle ça, une caste dans la religion où il est interdit aux religieux qui entrent dans cet ordre, un ordre, de se parler. Ils n'ont pas le droit de parler. La seule chose qu'ils ont le droit de se dire quand ils se croisent, c'est « frère, tu vas mourir ». Moins on en croise dans la journée, certainement que mieux on se porte. Bon, il y a toutes sortes de possibilités. Ça manque bien souvent la religion, au sens le plus large du terme. Elle est dépourvue d'inspiration divine. Bien souvent, elle ignore l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Bien souvent, elle se détourne de la simplicité de l'Évangile et de sa puissance régénératrice. Certains, disons, déclare que la prédication de la croix, c'est un scandale. C'est une folie. Et dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, nous retrouvons cela. Paul déclare, j'ai pas voulu savoir autre chose que le Christ crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais puissance de Dieu
pour tous ceux qui croient.
La religion est attachée à ses principes et elle manque, eh bien, bien souvent d'ouverture et elle peut même témoigner d'un mépris. À l'époque, là, du temps de Jésus, les religieux traitaient la foule de maudits. Ce sont des maudits. Ils comprennent rien. Nous, on a l'instruction. Nous, on a le savoir. Et ainsi, ces gens, eh bien, restaient dans leur misère et dans leur détresse. Alors, Pénina ne peut pas nous aider. Elkana ne peut pas nous aider. La religion ne peut pas nous aider. Alors, qui est capable de nous aider? Eh bien, Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes comme un homme, comme un vrai homme, comme un simple homme. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint et il m'a envoyé pour agir en faveur, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour apporter, eh bien, la consolation, pour venir en aide à ceux qui sont complètement déshérités, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus est venu pour agir en notre faveur. Et notre espoir ne réside que dans la personne de Jésus, le seul qui puisse nous sortir, eh bien, de notre déprime sous quelque forme qu'elle se manifeste. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Il a offert sa vie sur la croix pour qu'il en soit ainsi. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies, de nos infirmités, de toutes nos souffrances, dit le prophète, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette femme est là dans son comportement complètement défaite. Elle fait une prière que personne n'entend, même pas l'homme religieux qui est à ses côtés, mais qui ose dire quand même, eh bien, que ta prière soit exaucée. Et il est dit, et Dieu se souvint de Anne. Elle tomba enceinte et elle donna jour à un garçon qu'elle nomma Samuel, qui fut le fameux prophète Samuel, qu'on reconnaissait comme étant prophète, comme étant l'homme de Dieu, de Dan à Beersheba, d'une extrémité du pays jusqu'à l'autre. Elle a fait un vœu, je le consacrerai à Dieu, mais elle a tenu son vœu. Elle a consacré son fils. Elle est devenue cet homme de Dieu remarquable. Mais comment cela a-t-il pu se faire? Eh bien, la Bible dit, il a penché son oreille vers moi. Dieu est venu dans sa délicatesse et il a posé son oreille sur les lèvres de Anne qui faisait que remuer. Et là, il a recueilli sa prière et il l'a exaucée. Et chers amis, Dieu est capable de faire la même chose. Tu te sens peut-être l'objet de moqueries, de railleries. Tu te sens peut-être différent et tu vis dans une forme de complexe et ça te rend profondément malheureux et ça joue sur ton caractère. Alors entre celui qui se trouve dans une déprime profonde ou celui eh bien, qui entre dans une violence extrême, il n'y a pas d'avenir en cela. Mais il en est un qui te connaît, un qui te voit, un qui t'aime. Un qui est venu justement pour faire de toi une créature nouvelle, qui est venu pour donner un sens à ton existence. Je me souviens d'un témoignage, il y a bien des années, c'était à Aix-en-Provence, j'étais tout jeune, et un soir, à la réunion du mercredi, il y a un homme qui est venu à la réunion. Un homme qui était, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un baroudeur et un SDF. Il est venu dans une tenue débraillée, coiffé n'importe comment, avec un manteau qui était tout crasseux, il sentait mauvais. Il a assisté à la réunion et quand la réunion s'est terminée, il est venu à l'imposition des mains pour qu'on prie pour lui. Et on a prié pour lui. Puis il est reparti s'asseoir. Et celui qui faisait chanter a terminé la réunion faisant les annonces. Et puis il a dit cette fois-là, je ne sais pas s'il l'avait dit avant ni même après, il l'a dit ce jour. Voilà, vous allez rentrer chez vous. Votre femme dormira peut-être. Votre mari sera peut-être aussi couché. Vos enfants dormiront. Alors avant de vous coucher à votre tour, prenez quelques instants. Réfléchissez à ce que vous avez entendu ce soir et demandez à Dieu de pardonner vos péchés. Et la réunion s'est terminée. Et nous l'avons su le dimanche, cet homme est rentré chez lui. Il habitait dans un quartier d'Aix-en-Provence. Bon, maintenant, il y a une cité qui s'est construite, mais à l'époque, c'était un grand terrain vague à la sortie d'Aix. Et là, il y avait des petites baraques avec quelques SDF qui se trouvaient là. Des petites baraques avec du plastique. Voilà. Mais il y avait une fontaine. Donc, ils se rassemblaient par là. Et lui, il est rentré. En fin de compte, il était marié. Et il avait une petite fille. D'un ancien légionnaire qui avait été démobilisé, qui n'avait pas trouvé de job et qui était là, donc, dans la misère. Et quand il est rentré dans sa petite baraque, là, sa femme dormait. Et sa petite fille dormait. Et il s'est souvenu de ce que le jeune pasteur avait dit. Alors il s'est assis sur son tabouret et il a dit, voilà, le pasteur, il a dit que je pouvais demander pardon de mes péchés, donc je te demande pardon de tous mes péchés. Et ce qu'il nous a dit, c'est que à ce moment-là, il a senti la visitation de Dieu. Une paix extraordinaire l'a envahi. Une joie qu'il n'avait jamais connue a gagné son cœur et il s'est couché. Le dimanche, il est revenu à la réunion. C'était le même manteau, la même odeur. La coiffure était identique. Et quand on a vu cet homme, c'était le même homme et c'était pas le même homme. Il y avait quelque chose qui n'était pas pareil. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui avait changé? Et au bout du compte, c'était dans ses yeux. C'était dans son regard. Il y avait autre chose. Et il est venu nous raconter, eh bien, l'expérience du mercredi soir. Et c'est vrai que cette paix, cette joie du pardon, du nettoyage intérieur, eh bien, c'était dans l'éclat de ses yeux, dans la vitalité de ses yeux. Dieu l'avait changé. Dieu l'avait transformé. Et je garde le souvenir de cet homme qui ensuite venait aux réunions avec une petite sacoche et il avait acheté à la librairie le petit card que l'on vendait à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Magnifique. Magnifique. Oui. Une parole de Dieu de ce jeune pasteur qui venait de conclure la réunion. Peut-être votre femme dormira, peut-être votre enfant dormira, peut-être votre mari dormira. Demandez pardon à Dieu de vos péchés. Il rentre, sa femme dort, sa petite fille dort, s'assoit sur le tabouret, il demande pardon de ses péchés et Dieu fait de lui un homme nouveau. Chers amis, c'est à votre portée. C'est pas simplement hier, c'est aujourd'hui. C'est pas simplement pour cet homme hier, mais c'est aussi pour vous aujourd'hui. Vous pouvez vous retrouver sans appétit, sans force, sans morale. Vous avez l'impression qu'il n'y a que les autres qui sont heureux, mais le bonheur, il est aussi à votre portée. Je vais reciter ce témoignage de ce couple. Lui était veuf, elle était veuve, ils se sont rencontrés, se sont mariés, ils étaient malheureux. Mais dans leur appartement, ils ont remarqué le manège d'une famille qui avait un certain nombre de problèmes dans la maison, mais qui néanmoins était heureux. Et ils ne comprenaient pas. Et ils se disaient, ils ont tous les ingrédients pour être malheureux et ils sont heureux. Et un jour, n'y tenant plus, ils sont descendus au moment où la famille montait dans la voiture et ils sont allés en disant, excusez-nous, on veut juste vous poser une question. Quel est le secret de votre bonheur? Les autres ont dit, ben écoutez, nous, on va écouter l'évangile. On peut venir avec vous? Ben bien sûr, patientez 5 minutes, on arrive. Ils sont montés, ils se sont changés, ils sont partis avec ces gens et je les vois encore rentrer dans l'Assemblée de Dieu de Béziers, un vendredi soir, rentrer dans, par la porte principale au fond, traverser l'allée et venir pour la première fois écouter l'évangile. Et ce soir-là, Dieu les a rencontrés. Et ils ont été changés, ils ont été transformés. Le monsieur maintenant est auprès du Seigneur, sa femme est encore en vie. Mais la fille qui est devenue mère de famille, on est en contact encore avec elle de temps en temps et sa mère lui rappelle cette fameuse soirée. Ouais. Simplement, aller voir quelqu'un et lui dire « Mais quel est le secret de votre bonheur ?» On écoute l'évangile. Est-ce qu'on peut venir l'écouter ? Oui. Et ce jour-là, eh bien Dieu a changé leur vie. Il suffit de rien. Une parole. La femme dira à Jésus, dis seulement une parole. C'est l'homme plutôt. Dis seulement une parole. Et l'enfant a été délivré. L'enfant a été guéri. L'enfant a été rétabli. La femme dira, les miettes que les enfants gaspillent, qu'ils laissent tomber à terre. Moi, ça me suffit, je viens pour prendre le pain qui leur est réservé. Mais les miettes qui sont là par terre, elles seront suffisantes pour moi à cause de cette parole. Va, ta fille est guérie. Et quand elle rentre chez elle, sa fille est guérie. Alors je crois que cet après-midi, il y a une parole pour toi. Tu es rentré avec un visage défait, avec un cœur attristé. La Bible dit que le visage de cette femme ne fut plus le même. Et le fait que son visage n'a plus été le même, c'était le résultat d'un changement intérieur. Et je crois que tu peux ressortir avec un visage complètement différent. Simplement parce que Dieu aura touché ton cœur. Et parce que tu lui auras permis de le toucher. Car Dieu ne s'impose pas. Dieu n'est pas là pour nous violer, pour nous dire « il le faut, il le faut, il le faut, il le faut ». Non. Il se tient à la porte et il frappe. C'est ce qui est dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et s'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si je tiens la porte fermée, il ne va pas reculer de 2 pas pour essayer de l'enfoncer et pour dire « je suis là ». Non. Il est poli. Il a du respect. Il a de la délicatesse pour chacun d'entre nous. Qui est capable d'entendre Dieu frapper à la porte de son cœur? Qui est capable de pouvoir ouvrir cette porte et dire « Seigneur, je suis un petit peu maladroit, je ne saisis peut-être pas totalement, mais oui, je veux vraiment que ma vie soit changée. Je t'accueille, je te reçois. Christ est mort pour qu'il en soit ainsi. Christ est ressuscité de les morts pour qu'il en soit ainsi. Et sa résurrection donne du poids et de la valeur à sa parole et à ses promesses. Il y a une parole qui te concerne et cet après-midi, il faut que tu saisisses l'occasion de te tourner résolument vers le Dieu vivant et vrai. On va courber nos fronts et on va prier, s'il vous plaît. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous reconnaissons que cette femme, Anne, qui était complètement défaite et qui n'a pu trouver d'aide auprès de cette compagne, auprès de son mari, mais qui a trouver une aide auprès de toi, non point auprès de la religion même, eh bien, est l'image de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous pouvons expérimenter. Nous avons peut-être été déçus par nos proches, par nos amis, par des pratiques religieuses diverses ou philosophiques diverses. Mais toi, tu ne peux nous décevoir. Tu es venu afin que nous ayons la vie. Tu es venu pour agir en notre faveur. Tu es venu pour rendre, eh bien, à notre vie un sens, pour nous rétablir dans notre dignité d'homme et de femme. Alors je te prie, afin qu'au-delà de nos mots, au-delà de notre bonne volonté, il y ait l'action de ton esprit. Et que celui ou celle qui se sent concerné cet après-midi puisse vraiment se déterminer pour toi, accueillir ta parole, afin qu'il ne soit plus le même, que son visage soit totalement transformé, parce que tu auras accueilli sa prière et exaucé cette prière. Au nom de Jésus.